20h, 21h. Georgie. Flavie Flamand sur RTL.
La deuxième étoile, elle est là!
Didier Deschamps, les deux points vers le ciel. Il a offert la première Coupe du Monde à l'équipe de France en tant que joueur. C'était il y a 20 ans, au Stade de France, sur le sol tricolore. Et là, c'est en Russie, 20 ans après, que Didier Deschamps a emmené son groupe, l'équipe la plus jeune en finale dans l'histoire de la Coupe du Monde depuis l'Argentine en 1978.
Nous sommes le 15 juillet 2018. Sous la pluie torrentielle du stade Loujniki de Moscou en Russie, Kylian Mbappé, Paul Pogba, Hugo Lloris et les 20 autres joueurs de l'équipe de France célèbrent sur la pelouse leur victoire 4-2 face à la Croatie. Après 90 minutes de jeu et des buts signés Griezmann, Mbappé et Pogba faisant deux des champions du monde, les joueurs tricolores savourent cet instant leur médaille autour du cou. En retrait, un homme les regarde. Il sait que dans ces instants, la victoire appartient aux joueurs et à personne d'autre. Il le sait car il a vécu cette même émotion 20 ans auparavant, devenant alors le premier capitaine de l'équipe de France de football à soulever la Coupe du Monde dans son pays, en France. En ce 15 juillet 2018, Didier Deschamps devient champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière, cette fois-ci en tant que sélectionneur. Pourtant, comme Aimé Jacquet avant lui, il a dû subir les critiques de la presse, lui reprochant un jeu peu spectaculaire sur le terrain. Mais pour le premier à avoir soulevé la Coupe d'Europe avec l'Olympique de Marseille un soir de 1993, peu importe la manière et le style, seule la victoire compte. Portrait ce soir de l'homme de toutes les premières du football français. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie.
20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Bernard Pascuto, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste et vous êtes auteur d'une biographie, Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre, aux éditions du Rocher. Alors avec cette victoire, on l'a entendu et on est encore porté par l'événement de 2018, Didier Deschamps, il rentre dans un cercle très fermé, hein, celui de ceux qui ont remporté deux fois la Coupe du Monde, une première fois en tant que joueur, une deuxième en tant que sélectionneur. Ils sont combien ?
Il y en avait deux avant lui, le Brésilien Zagallo,
ouais,
et l'Allemand Beckenbauer, Franz Beckenbauer, voilà, et Didier Deschamps est le troisième.
Alors qu'est-ce qu'il représente Didier Deschamps pour le foot français ?
C'est un phénomène.
Je disais que c'était l'homme de toutes les premières du foot, on va y revenir, mais enfin on a le sentiment qu'en fait c'est comme s'il avait ouvert à chaque fois une nouvelle voie vers le succès.
Oui, alors bon, c'est en tant que footballeur, c'est sûr qu'il y a des gens plus chatoyants, Zidane notamment, qui a été. Mais au niveau de la structure, du palmarès, de tout ce qui forge en fait une équipe comme un club, ce qui est pas facile quand on est en sélection, il est imbattable. Et en fait, il est un peu, moi je dirais, le fils spirituel d'Aimé Jacquet, qui avait forgé ça, cette façon de considérer une équipe de France, en l'occurrence, comme un club. Encore une fois, c'est très difficile. Ce sont des joueurs qui viennent de partout, qui jouent dans d'autres clubs toute l'année, qui ont des rassemblements trois fois, quatre fois par an, etc.
Donc il faut créer une unité.
Oui, créer une osmose, c'est très compliqué. C'est pas pareil que quand on joue au Real Madrid ou au Paris Saint-Germain et que tous les matins, on voit les mêmes, tout le monde au travail.
Donc c'est recréer en fait un esprit d'équipe, l'esprit de l'équipe de France, l'amener évidemment à la victoire en tant que sélectionneur. Ce soir, on va revenir sur le parcours de Didier Deschamps, de Nantes à l'équipe de France en passant par l'OM et la Juventus de Turin. On va parler des affaires aussi, hein, des affaires qui ne l'ont pas véritablement touché, pourtant il n'était pas loin et qui lui ont valu un beau surnom donné par un ancien coéquipier, mais ça de toute façon vous l'apprendrez un petit peu plus tard dans Jour J. On se retrouve dans un instant, nous sommes en direct jusqu'à 21h.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui revient ce soir sur le 15 juillet 2018. Souvenez-vous, la folle joie qui s'empare de tous les Français à la victoire des Bleus face à la Croatie. 4-2, une deuxième étoile sur le maillot bleu, 20 ans après la première, et une Coupe du Monde ramenée à la maison. Ce jour-là, c'est aussi le sacre de Didier Deschamps qui tient cette fameuse coupe pour la deuxième fois de sa carrière, cette fois-ci en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Et pourtant, Bernard Pascuto, vous êtes mon invité. invité. Vous êtes journaliste, vous êtes le biographe aussi. Donc, vous avez écrit une biographie sur Didier Deschamps. Pourtant, il aurait pu faire du rugby, Didier Deschamps.
Oui, eh ben, il est né dans une clinique de Bayonne. Ses parents habitaient Anglette. Son père, sa famille, dans sa famille, ça jouait pas mal au rugby. Et puis, il était assez doué pour tous les sports, et notamment pour la course. Mmh. Alors, bon, ce qui est intéressant avec Deschamps, quand on reparle de l'enfance, de sa toute jeunesse, c'est qu'il a été très grand, très jeune.
1m70 quand il avait oui. quoi, 13 ans, 12-13
oui,
ans.
Voilà, 12 ans. Donc ce qui fait que dans le foot, quand vous avez 12 ans, que vous faites 1m70, vous êtes beaucoup plus grand que tout le monde, beaucoup plus fort, et donc vous marquez des buts. Donc c'était un buteur. Mm-hmm. Il empilait les buts. Voilà. Après, bon, ça c'est un peu. Il a
tassé.
Été rattrapé.
Il
a été. Oui, ça s'est tassé.
Il n'a pas
si
continué sur sa courbe de
voilà.
croissance.
Ouais. Et la deuxième chose, je trouve qui est très importante à dire autour de Deschamps, c'est que depuis son plus jeune âge, dans toutes les équipes, et même s'il était le plus jeune, puisque quand vous êtes très grand, etc., donc vous avez 12 ans, vous jouez avec des gens de 14, etc., il a toujours été capitaine.
Il avait déjà un état d'esprit.
Ah ben oui, apparemment. Mmh. Et c'est vraiment la chose innée. Parce qu'il n'y a personne qui décide comme ça. Voilà, donc, c'est-à-dire depuis l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, jusqu'à la Coupe du Monde 98, il a été capitaine partout où il est passé.
Voilà, il était donc fait pour être capitaine. Comment est-ce qu'il se retrouve à Nantes ?
Alors, il se retrouve à Nantes. Là aussi, ça montre quand même la qualité du jeune homme et la qualité de ses parents aussi. Puisque il y avait eu des propositions du club de Bordeaux, qui à l'époque était très très fort, qui était le meilleur club français, et qui était dirigé par le président Bèze, qui était le grand ennemi de Tapie. Ils avaient débarqué en Rolls chez les Deschamps pour essayer de proposer de l'argent.
Épater la galerie.
Les parents n'ont pas voulu entendre parler de ça. Ils ont dit on va faire une tournée des clubs français, les meilleurs clubs français, pour leurs installations, etc., leurs centres de formation. Donc ils devaient faire Auxerre, Monaco, Nantes, Lyon. Et ils commencent par Nantes. Et après qu'ils aient terminé la visite, donc on leur fait visiter toutes les installations avec le petit Deschamps, la porte se referme du centre de formation et là Deschamps dit à ses parents c'est plus la peine d'aller ailleurs, c'est là que je veux aller. Voilà, donc c'est lui qui décide et il décide, il faut bien le savoir aussi, il décide de son enfermement pendant plusieurs années parce que c'est plus fort qu'un internat. Hein. Mmh. C'est des moments très difficiles. Il racontait que quand même, il pleurait souvent le soir dans son lit parce qu'il y a la solitude. Voilà. Mais c'est un choix, c'est des choix de vie.
C'est un choix, c'est l'occasion aussi de nouer des amitiés solides. Une amitié notamment avec un certain Marcel Desailly qui lui-même était à Nantes en même temps que Didier Deschamps. Ils avaient le même âge. Une amitié naissante qui va se renforcer à la faveur d'un drame. Un drame survenu le 18 novembre 1984.
Une dernière minute, deux joueurs du FC Nantes, Seth Adoncor, 24 ans, et Jean-Michel Lageboeuf, 20 ans, ont trouvé la mort cet après-midi dans un accident de la route. C'est ce qu'on apprend auprès du club de Nantes.
Alors Seth Adoncor, c'était le demi-frère de Marcel Desailly, qui lui-même donc était joueur à Nantes. Et c'est Didier Deschamps qui va être chargé.
Jeune, oui. Ils étaient très jeunes, ils étaient juniors, je pense encore, et ils étaient quand il s'agit d'apprendre ce drame à Marcel Desailly, donc ils étaient en déplacement et les dirigeants étaient catastrophés quand ils apprennent ça le matin. Donc qui va annoncer ça à Desailly? Et assez naturellement, tous ces dirigeants disent. Ben, on va demander à Didier Deschamps parce que d'abord c'est son meilleur ami et puis lui il a la maturité pour le faire. Je sais pas, Deschamps devait avoir 17 ans à l'époque.
Mais il avait 16 ans. Qu'est-ce que ça dit Didier Deschamps justement ? Qu'est-ce que ça dit de lui déjà ?
Ça dit que des adultes, des dirigeants, tout de suite pensent que lui il a la maturité pour faire cette démarche. Alors c'est peut-être un peu lâche de la part des adultes, mais je pense que c'est aussi bienvenu, bien vu, parce qu'il était le meilleur ami de Saï, qu'il l'a fait avec tact. Voilà, et que
c'est
ça a
pas
été...
quelqu'un qui recule en tout cas, hein, devant ses engagements.
Non, bien sûr.
Voilà, et il n'avait que 16 ans. Alors à Nantes, il s'illustre sous le maillot jaune des Canaries. Nantes, c'est un super club, c'est un très bon club à l'époque. Il est déjà capitaine, vous le disiez, de l'équipe. Et pourtant, bah, évidemment, il a envie, il a des grandes ambitions, quoi.
Oui, il a plein d'ambitions. Et puis à Marseille, il y a un président qui s'appelle Bernard Tapie, qui a plein d'ambitions aussi. Donc il a des champs. Qui vient de vivre sa première sélection en équipe de France. Donc, il a tapé dans l'œil de Tapie. Il doit avoir 22 ans, à peu près 21 ans. Et Tapie, bon, comme toujours, évidemment, quand il veut quelque chose, il met. Bon. Et donc, il envoie Jean-Pierre Bernès, à l'époque, son directeur général, pour négocier le transfert de Deschamps. Et puis. Ça se passe au mois d'octobre, je crois, quelque chose comme ça. Et donc le transfert est négocié, on multiplie le salaire par 6. Et puis surtout, Tapie dit non, mais ce sera pas, non, c'est pas au mois de juin prochain. Je le veux tout de suite, là,
tout de suite, maintenant.
Et donc, 2 mois après, au mois de décembre, Deschamps arrive à Marseille.
Alors, on va revenir sur la relation entre Bernard Tapie et Didier Deschamps, qui n'était pas de tout repos quand même hein, à Marseille. Mmh. On va revenir sur le sacre de l'OM en 93. Et puis Marseille, ce sont aussi les affaires. On y revient dans un instant dans Jour J. À tout de suite sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Voilà, jour J qui est consacré ce soir à Didier Deschamps, le seul Français à avoir porté la Coupe du Monde 2 fois en tant que joueur en 98 et sélectionneur en 2018. On vient de le quitter quand il arrive à Marseille, Bernard Pascuito. Vous êtes donc notre invité jusqu'à 21h. Bernard Tapie a flashé sur Didier Deschamps. Il le veut là, maintenant, tout de suite. Et pourtant, on pourrait dire que c'est le début d'une grande histoire d'amour. Non, ça n'a pas été de tout repos, leur histoire à tous les deux. Hein,
c'est le problème avec Tapie. On l'a vu en d'autres occasions. C'est qu'il s'enflamme, Et puis, donc Deschamps arrive donc, en décembre 89. Commence à jouer donc, comme Tapie le souhaitait dès les premiers mois de l'année 90. Et puis, il est jeune, il est quand même très jeune encore. Marseille, c'est une équipe de stars, de gens très costauds, etc. Pour s'imposer, c'est pas si facile. Et puis Tapie, au bout de 3 semaines, 1 mois, que l'autre s'est pas imposé, eh bien, il n'en veut plus.
Et c'est pour ça qu'il le prête aux Girondins de Bordeaux. C'est un peu l'humiliation, ça, non?
C'est une première humiliation, mais ce sera pas la dernière. Ouais. Donc il l'envoie en prêt... Au Girondins de Bordeaux. On peut penser que d'ailleurs c'est une bonne idée parce que comme ça il va se former dans un environnement un peu plus calme, il va se former. Il fait une très bonne deuxième partie de saison avec les Girondins de Bordeaux et donc il revient naturellement à Marseille. Et là, Tapie lui dit « Ah non, mais je veux plus de toi maintenant. »
Et je t'envoie.
Voilà.
Et je te vends.
Voilà. Et
il le menace.
Si tu m'emmerdes trop, je vais te vendre au Paris Saint-Germain. Ce qui alors là, vous parlez d'humiliation, là...
C'est le plus grand des affronts. Voilà. Alors, il se réconcilie. Tapie nous dira que effectivement Didier Deschamps s'est mis à genoux devant lui et l'a supplié de le garder. Didier Deschamps, lui, dit que c'est par téléphone que les choses se sont passées. Bref, Bernard Tapie, Didier Deschamps se réconcilient. En 93, c'est le sacre de l'OM dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Ligue des Champions, sur le fameux coup de tête de Basile Boli. Là, l'histoire d'amour entre Deschamps et Tapie, elle est au beau fixe.
Non mais c'est extraordinaire aussi quand même. Imaginez, Deschamps était quasiment dégagé de Marseille et 2 ans après, il soulève en tant que capitaine de l'OM. Donc il s'est imposé.
Alors il s'est imposé, il est conquérant, il est vainqueur, il brandit la fameuse coupe de la seule Ligue des Champions qui a été remportée par un club français. Alors ça fera plaisir aux supporters marseillais qui m'écoutent, peut-être un petit peu moins à mes fils. Bref,
pour le moment.
Voilà, Marseille, oui c'est vrai, Marseille est au top, mais 93 c'est aussi l'année de l'affaire VAOM. C'est la même année quand même cette affaire. Racontez-nous de quoi il s'agit.
C'est la même année et le même mois. Un match
truqué
qui aurait été acheté truqué par des dirigeants de l'OM avec la complicité de deux joueurs de Valenciennes. Et ce qui aurait été organisé, en fait, tout ça, ce serait un complot entre Nantais, entre anciens Nantais.
Dont faisait partie Didier Deschamps.
Oui, enfin, il y en a qui sont vraiment dans le coup, comme Jean-Jacques Edli, qui a été condamné, etc. Il y a aussi Deschamps et Desailly qui étaient des anciens Nantais. Et on a su quand même, on a des preuves qu'ils étaient sur le fossé A au moment, c'est noué l'intrigue, et que donc, ils ne peuvent pas ne pas avoir été au courant.
D'accord, ok.
En tout cas.
Bon, il s'en sort, 94, Didier Deschamps quitte l'OM, s'engage auprès de la vieille dame, la fameuse Juventus de Turin. Là aussi, énorme succès, il gagne sa seconde Ligue des Champions. Mais l'Italie est-elle encore une fois secouée à la fin des années 90 par des affaires de dopage? Et la Juve n'y échappe pas. Deschamps, écoutez-le, s'en défend à sa manière, puisqu'il était là aussi, on l'écoute.
C'est vrai, on est le premier à reconnaître qu'on peut utiliser des produits qui sont autorisés, qui nous permettent de mieux récupérer, ou quand on a des périodes de fatigue qui sont un complément alimentaire.
Alors, certains lui ont reproché de mal se défendre dans cette histoire, Bernard Pascuito.
Oui, c'est très mal. Il aurait dû prendre exemple sur son copain Zidane, à l'époque, qui était à la Juve, et donc qui était comme lui. Et Zidane n'a jamais parlé, il n'a jamais fait de déclaration, parce que je pense que quand vous commencez à parler... Alors bon, d'abord, c'était la Juve qui était visée dans cette affaire, qui a été condamnée d'ailleurs, qui a été rétrogradée, etc. Ça a été assez grave. Alors les joueurs, on ne sait pas. Est-ce qu'on a abusé d'eux? Est-ce qu'ils étaient passifs ou consentants? Voilà. Après, l'argument qu'on entend là, bon, il est quand même un peu naïf, quoi. C'est pas des vitamines, évidemment. Surtout, moi, je me souviens d'une autre émission. Je la cite dans mon livre, chez Thierry Ardisson, où Deschamps explique que le dopage n'a jamais fait tirer dans la lucarne. Oui, d'accord, mais ça permet surtout, au bout de 90 minutes, d'être toujours très en forme,
de courir très vite,
de sauter plus haut, d'aller plus vite, etc. Sinon, personne ne se doperait.
Alors, ça lui a quand même valu un beau surnom, ça, ces histoires. L'affaire OMVA, qui ne l'a pas atteint. L'affaire de la Juve et du dopage, dont il s'est défendu, mais qui ne l'a pas atteint. C'est David Ginola qui lui a trouvé un surnom. Je vous laisse reprendre le terme.
David Ginola, qui n'aimait pas beaucoup Deschamps.
Hein, on l'a bien compris, on l'imagine.
Qui l'avait surnommé Passepartout.
Ouais.
Et évidemment, il faisait
non pas... Non pas pour sa petite taille.
Oui, et puis il faisait pas non plus référence à ses qualités de dribbleur. Passepartout, parce qu'il passait un peu entre les gouttes de toutes les affaires.
Comment on explique ça, justement, qu'il ait échappé à tout ça, Didier Deschamps?
Honnêtement, il n'y a pas que lui. Je veux dire, je veux pas faire son avocat, mais bon, dans ces affaires-là, il y avait Desailly aussi. Mais Desailly a été plus intelligent aussi dans l'affaire. Il n'a pas parlé. Voilà, Deschamps, il s'est quelque part mis en évidence. À la Juve, il y avait pas que lui. Je vous l'ai dit, il y avait Zidane, etc. Donc, il a échappé comme les autres ont échappé, comme l'équipe de France 98. On va pas s'étaler sur les histoires de dopage, mais enfin, on sait que l'équipe de France 98, il y a eu des forts soupçons, notamment par la ministre des Sports à l'époque, Madame Buffet. Et c'était parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient en Italie.
Donc il a eu le malheur de parler, quoi, en fait. C'est ça.
Oui, c'est pas adroit, je trouve. Moi, je trouve Zinedine Zidane, je trouve que c'est un modèle là-dessus. Parce
de temps
que...
en temps, il faut savoir se taire.
Voilà.
On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, Georgi qui retrace donc les grands jours de Didier Deschamps. C'est tout de suite en direct sur RTL jusqu'à 21h.
Georgi, Flavie Flamand sur RTL.
Ah, vous la sentez cette ambiance? On est en plein cœur d'un stade. Ça y est d'ailleurs, on peut retourner au stade. Pendant un an et demi, deux ans, les stades ont été bien silencieux. Jour J qui retrace ce soir jusqu'à 21h les grands jours justement de Didier Deschamps. On va revenir désormais, si vous le voulez bien, Bernard Pascuito. Vous êtes l'auteur d'une biographie Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre aux éditions du Rocher. On va revenir sur sa carrière de joueur en équipe de France. Passepartout, il a quand même
un certain... Pardon. Oh mais non, mais écoutez, moi, depuis que je sais ça, ça m'amuse. Passepartout, il a quand même un certain palmarès hein, en équipe de France, hein, parce que c'est vrai qu'il a, il a cartonné. Alors, on va revenir sur ses grands succès, et pourtant, s'il a eu beaucoup d'occasions de rire, il en a eu une de pleurer. Les seules larmes que l'on connaît de Didier Deschamps sur un terrain, c'était ce jour-là.
Attention, attention Kostadinov,
oh, but. Oh à 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes,
à 10 secondes, Kostadinov qui m'a...
Aïe, on entend Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. La France, ce jour-là, c'est un drame, n'est pas qualifiée à la Coupe du Monde.
Oui, et c'est évidemment, bon, on est tous terrassés.
On est en 93, hein, France-Bulgarie. Ouais. Kostadinov vient de marquer le but.
93, ouais. Et on est tous terrassés, les joueurs aussi, évidemment. Et puis il y en a un qui est assis sur le terrain et qui pleure. Et c'est la seule fois qu'on a vu pleurer sur un terrain de football, c'est Didier Deschamps.
Ouais.
Et moi je pense, alors ça c'est vraiment de l'imagination de ma part, mais je pense que dans certains moments de la Coupe du Monde 2018... Il a peut-être pu employer ses souvenirs pour parler à ses joueurs, leur raconter ou avant le France-Ukraine qui nous a qualifiés pour la Coupe du Monde 2014, raconter à ses joueurs ce que ça fait de perdre cruellement, bêtement
à 10 secondes de la fin,
que toute votre vie de footballeur change.
Alors heureusement pour lui, hein, parce qu'il a connu ce jour dramatique en 93, c'est la seule fois où on l'a vu pleurer sur le terrain, donc quelque part faire montre d'émotion qui parfois nous échappe peut-être un petit peu quand il s'agit de Didier Deschamps. Le grand souvenir, pour nous tous, c'est 98. Bon, là, hein, c'est au Stade de France, 3-0 contre le Brésil, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit, c'est l'aboutissement de sa carrière de joueur et de capitaine en fait.
Oui, évidemment, c'est un aboutissement pour tout le monde, mais il faut pas oublier que 2 ans après, ils vont gagner l'Euro,
bah, ouais.
Ce qui sera un nouvel aboutissement. Et voilà, bon, c'est extraordinaire parce que voilà, en 2 ans, tout d'un coup, il renverse tout un monde. C'est pour nous nous Français, ça renverse tout un monde. Tout d'un coup, on devient la meilleure équipe du monde et la meilleure équipe d'Europe. Et puis ça s'installe quand même parce que 20 ans après,
mais c'est fou.
On y est toujours. Et pour eux, pour lui, je veux dire, c'est des choses qu'on n'envisage même pas quand on commence le football.
Et c'est vrai qu'en 98, l'équipe, elle n'était pas si soudée que ça, que ça n'était pas une équipe aussi.
Oui, mais c'est pas une.
Parce que c'est quand même elle qui nous a mené à la victoire.
Ça n'a rien d'étonnant. C'est-à-dire que en France, on a un côté comme ça, un peu oui. On croit que pour bien faire les choses ensemble, il faut bien s'aimer, s'embrasser tout le matin, prendre le petit déjeuner ensemble. Moi, j'ai entendu parler, parce que j'étais un peu jeune à l'époque, mais de la Coupe du Monde 74, par exemple, gagnée par l'Allemagne, où les joueurs allemands se détestaient tellement qu'ils étaient à des tables séparées par petits groupes. Il y avait ceux de Mönchengladbach qui détestaient ceux du Bayern, etc. Les gens se parlaient. Mais sur le terrain, tout le monde fait le taf, quoi. Bah oui, parce que si vous avez l'occasion de passer le ballon à quelqu'un que vous détestez pour qu'il marque le but et qu'il vous fasse gagner la Coupe du Monde, vous n'allez pas vous en priver.
Donc ça reste un métier, c'est ça que vous nous dites, quoi. Parce qu'en 98, il y a Ginola qui est resté sur la touche. Il y a aussi Cantona. Aimé Jacquet ne les a pas sélectionnés. Ça ne les a pas empêchés de gagner.
Oui, ils n'avaient déjà pas été sélectionnés à partir de 96. C'est-à-dire, Aimé Jacquet a reconstruit une équipe après le désastre de novembre 93. Et il a éliminé des éléments qui pouvaient paraître perturbateurs pour reconstruire son équipe. Voilà. Mais encore une fois, oui, il y avait des gens il y avait des petits groupes, il y avait des gens qui s'entendaient mieux. On sait que Blanc, Deschamps, ça s'entendait pas très bien. Zidane était copain plus avec Djigari. Mais.
OK. Vous l'avez cité. en 2000, c'est la victoire à l'Euro. Donc là, c'est quand même la totale. On est le 3 septembre 2000. Et pourtant, il sera critiqué pendant cet Euro, Didier Deschamps. Pourquoi ?
Mais il n'a pas été critiqué par ça. Ça, c'est aussi une autre facette de la personnalité de Deschamps, c'est qu'il ne supporte pas la critique. Et il ne supporte pas certaines vérités. Et il se trouve que c'est un journaliste de l'équipe, d'ailleurs, Vincent Duluc, remarquable journaliste, qui est aujourd'hui le leader de la rubrique foot à l'équipe, qui avait fait un papier avant l'Euro en disant que peut-être le jeune Patrick Vieira, aujourd'hui, était supérieur sur le plan footballistique à Deschamps et que Deschamps, en fait, avait plus sa place aujourd'hui sur le terrain grâce à ses qualités de meneur d'homme, de stratège, de capitaine.
Que de joueur.
Il n'a pas supporté et il a fait la gueule quand même pendant un mois à l'Euro. Il était capitaine, il n'a pas fait une conférence.
Il ne voulait pas parler à la presse. C'est voilà. Pour ça qu'il s'est mis la presse à dos. C'est qu'à un moment donné,
il boycottait la
pas...
presse.
Ouais. D'accord. Le 3 septembre 2000, donc, Didier Deschamps met un terme à sa carrière d'international français. Il a 32 ans, écoutez-le.
Durant ces 11 années en équipe de France, j'ai côtoyé beaucoup de personnes. J'ai pas eu de problème avec beaucoup d'entre elles. Donc, je pense que je laisserai une bonne image à chacun, à chaque personne. Et c'est ça le plus important.
Alors, il a réussi ou pas à laisser une bonne image, Bernard Pascuto? Oh, j'ai vu votre regard.
Oui.
Non, je sais pas, vous avez souri. Pourquoi vous avez souri?
Non, parce que c'est une manière encore une fois de se défendre sur quoi il n'est pas attaqué.
Ouais.
Parce que bien évidemment qu'il laisse une bonne image.
Ouais.
Dans l'ensemble, on peut toujours reprocher telle ou telle chose à un tel, mais à l'arrivée, on a vu d'ailleurs, là encore, je vais me faire l'avocat de Deschamps. Mm. On a vu ce que ça donnait 2 ans après. Il était plus là. Mm. Ça a été l'élimination au premier tour avec une équipe complètement disloquée, etc. C'était les mêmes joueurs, hein, à l'exception de Deschamps. Voilà.
Donc il a laissé une bonne image.
Oui, bien sûr.
Bon.
Il a ses qualités.
On l'entend. On va se retrouver dans un instant. Deschamps, entraîneur-sélectionneur, c'est dans un instant dans Georgie.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Nous sommes en direct sur RTL, Georgie qui revient sur la carrière de Didier Deschamps avec notre invité, donc Bernard Pascuito. Bernard Pascuito, on vient de le quitter alors qu'il a mis un terme à sa carrière de joueur international. On est en 2000, Didier Deschamps devient rapidement entraîneur de l'AS Monaco. Ça s'est fait rapidement cette histoire.
Oui, enfin, c'est pas vraiment une surprise. Quand
alors,
on connaît
racontez-moi, c'est une suite logique en fait.
Quand on connaît depuis 15 ans les qualités de Deschamps, qu'il devienne entraîneur, c'est vraiment...
Super logique.
Voilà. Et alors, ce qui va être un peu plus surprenant quand même, c'est qu'en fait, après quelques mois de tâtonnement, donc il est engagé par l'AS Monaco, ce qui n'est quand même pas un petit club hein, pour débuter, et quelques mois de tâtonnement... Et puis, tout d'un coup, ça se met à rouler et il termine deuxième du championnat. Et l'année suivante, il emmène cette équipe en finale de la Ligue des Champions.
Encore une fois.
Voilà. Et sincèrement, alors ça, moi, je trouve ça très, très fort.
Finalement.
Parce que, alors c'est vrai, on viendra vous dire après qu'il y a des super joueurs, que c'était une super équipe. Mais enfin bon, toujours est-il, c'était une super équipe qui venait de changer d'entraîneur puisque ça marchait pas avant. Voilà. Et ça, c'est les qualités de Deschamps.
Mais en fait, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il arrive, il remet tout en ordre, quoi. Il met parfois une saison pour effectivement toujours tenir une coupe finalement dans chacune de ses aventures. Pourquoi est-ce qu'il est parti à la Juventus de Turin alors? Parce qu'il est retourné là-bas.
Alors ça, on est sur le côté un peu sombre de Deschamps, c'est que il a parfois il prend des décisions qui sont pas très compréhensibles. Et à Monaco, alors qu'il a l'Europe du football à ses pieds, il va pouvoir aller dans l'année qui suit dans n'importe quel grand club, etc. Il décide d'abord de prolonger à Monaco, et puis l'année suivante se passe pas bien, et du coup il démissionne et il s'en va. Et puis, la Juve qui vient d'être reléguée à cause d'un nouveau
en
scandale.
En série B, ouais.
Il décide, il y va, enfin, son agent a employé l'image de « il est allé à genoux ». Parce que évidemment, retourner dans son club de la Juve, donc il va comme entraîneur, il les fait remonter en un an
en Serie A.
De Serie B en Serie A, mais il se pose un problème au niveau de son salaire, parce qu'il demande une revalorisation de son salaire, mais il était allé tellement à bas prix, si vous voulez, que c'est difficile de... Et donc il se fâche, là aussi, et il s'en va.
Et là,
il va vivre une période assez difficile pendant deux ans, un peu plus de deux ans même. Il est candidat à un moment donné à l'équipe de France lorsque Domenech est très menacé après la catastrophe de l'Euro 2008. Il fait peur. Il y a Laurent Blanc aussi qui serait candidat. Mais bon, Laurent Blanc, comme lui, ils font peur aux dirigeants de
l'époque. Pourquoi ils font peur ?
Parce que c'est le lobby 98. D'accord. Et que ces petits cons, ils vont vouloir tout diriger, ils vont tout nous apprendre. Surtout pas, on les met de côté. Je pense que c'est vraiment ça, quoi, le truc. Et donc, on garde Domenech avec l'effet, l'effet
qu'on
magnifique
connaît.
Qu'on connaît avec Naïsna.
Naïsna, donc voilà. C'est vraiment la grève des footballeurs qui ne veulent pas descendre du bus, qui ne veulent plus jouer. Donc ça, c'est effectivement la déconvenue, un peu la honte aussi, je dirais, qui s'abat sur l'équipe de France à ce moment-là. Donc, c'est un peu le bazar partout. Il a deux ans d'inactivité et puis il revient comme un messie à Marseille.
Oui, et il arrive à Marseille, c'est un peu... on ne sait plus trop, là, parce qu'il a un peu perdu de visibilité. Pendant ces deux ans et demi, et voilà. Et Marseille, ça va faire comme...
Comme partout.
Comme partout. Il commence par gagner une Coupe de la Ligue, et l'année d'après, il est champion de France. C'est le seul titre que Marseille de champion de France
que
Marseille a gagné en 30 ans.
Ouais.
Alors ça, c'est encore une fois, c'est le mauvais côté de Deschamps aussi. C'est d'abord, il y a des crispations parce que il a eu la sensation, qui n'est pas forcément fausse d'ailleurs, que tout le monde n'était pas très content de son retour à Marseille, parce qu'il a comme agent, à ce moment-là, Jean-Pierre Bernès, qui n'est pas en odeur de sainteté à Marseille. Et surtout, il pratique un football, ça c'est ce qu'on peut lui reprocher aussi, qui est quand même un peu restrictif, etc. Alors ce genre de football restrictif, tant que vous gagnez... Partout, tout le monde applaudit, tout le monde est content. Quand ça commence à perdre...
Ça nous tombe dessus.
On dit, en plus, il joue mal. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Et il va finir par vraiment presque chassé de Marseille, ce que je trouve très injuste quand même.
Vient ensuite donc ce moment-là, c'est en 2012, cet événement dans le domaine du foot français.
RTL, une information, Christophe Decroix.
Oui, qui nous arrive à l'instant avec Jean-Louis Tour. Il y a apparemment du nouveau du côté de chez Didier Deschamps.
Absolument, c'est une information signée Jean-Louis Pacul, notre correspondant à Marseille. Didier Deschamps a signé pour être le nouveau sélectionneur de l'équipe de France un contrat de 2 ans, plus 2 années supplémentaires en cas de qualification pour la Coupe du Monde.
Et d'entrée, Didier Deschamps montre la couleur.
Être international français, c'est magnifique. Ça doit être un privilège pour chacun d'entre eux, que ce soit la première ou la 50e ou la 100e sélection. Mais ils auront aussi des devoirs.
Une rigueur héritée de ses 103 sélections en tant que joueur et qui devra faire oublier le laxisme reproché à Laurent Blanc à la tête de l'équipe de France.
Alors c'est ça la méthode d'aider la rigueur ?
Oui. Moi, j'apporterai un petit correctif parce que j'entends dire souvent qu'il a redressé l'équipe de France après le désastre de Naïsna. Il y a quand même eu, de 2010 à 2012, un monsieur qui s'appelle Laurent Blanc, qui a dirigé l'équipe de France.
Mais on vient de l'entendre, Laurent Blanc, on a dit que c'était pas non plus...
Oui, enfin, moi, ce que je sais, c'est qu'il fallait la reprendre quand même sur ce champ de ruines. Ils ont fait tous les matchs de qualification sans perdre un seul match. Ils ont été éliminés en quart de finale de l'Euro 2012. Deschamps, formidable, c'est très bien. Mais Laurent Blanc, c'était très bien aussi. Il fallait recommencer, juste après Naïsna.
Voilà,
pas 2 ans après.
Voilà. On va se retrouver dans un instant. 2014, on est en quart de finale de la Coupe du Monde. 2016, on perd en finale de l'Euro, organisé par la France, l'Euro. 2018, on remporte la Coupe du Monde. Et puis, on reviendra aussi sur l'Euro en juin dernier. Bon, là, c'était pas folichon, c'était pas très joyeux. À tout de suite sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Nous sommes en direct et on s'adresse ce soir au fou du ballon rond, mais au pas fou du ballon rond, parce qu'on s'intéresse à un homme aussi. On raconte l'histoire de Didier Deschamps et on apprend énormément de choses. Une émission qui, je suis persuadée, vous passionne, même si le foot n'est pas forcément votre truc. Néanmoins, j'ai révisé mon foot, vous l'avez remarqué, Bernard Pascuto, oui. Vous êtes mon invité jusqu'à 21h. On sort d'un euro raté quand même en juin dernier. Hein. On se fait éliminer par la Suisse en 8e de finale.
Oui.
Là, Didier Deschamps, il est toujours dans l'histoire. Et pourtant, il est maintenu, Didier Deschamps, par Noël Le Graët, le patron du foot français. Vous l'avez compris, ça, ou pas ?
Moi, j'ai eu un peu de mal, surtout avec la façon dont ça s'est passé. C'est-à-dire comme si c'était une évidence. Je ne vais pas citer tous les exemples de sélectionneurs étrangers auxquels on avait fixé un objectif.
Ouais.
Là, Deschamps avait un objectif qui était demi-finale, qui l'ont pas atteint et qui donc tout naturellement sont partis. Alors ça, c'est la première chose.
Ce que vous sous-entendez, pardonnez-moi, c'est que Didier Deschamps aurait dû de lui-même, l'absolu.
Non, ils sont partis parce qu'on les a. Alors il y a ceux qui tirent leur révérence et qui tirent des leçons finalement de leur
échec.
Et puis il y a surtout votre fédération, qui est votre employeur, qui vous dit, écoute. L'objectif, c'était demi-finale. On n'y est pas arrivé. Donc, merci pour tout ce que tu as fait.
On
passe à autre chose. Donc, je trouve que ça s'est passé comme ça, un peu vite, comme s'il n'y avait pas de discussion, comme si on ne se posait même pas la question. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai senti, c'est peut-être mon feeling, j'ai senti pendant cet euro que Deschamps avait quelque part, selon moi, perdu la main. Alors
pourquoi?
On va voir si j'ai tort ou raison, j'espère que j'ai tort. J'ai vu des comportements de joueurs, Pogba, j'ai vu des contestants de le sélectionneur. J'ai vu une petite polémique entre Griezmann et Mbappé sur qui tire les pénaltys parce que le sélectionneur n'avait pas dit.
Donc il n'avait plus la même autorité, quoi. Ce que vous dites, c'est qu'à un moment donné, les joueurs ont pris le dessus.
Il y a une perte d'autorité.
Ouais.
Après, le troisième élément. C'est que ça va faire 10 ans qu'il est là. Hein, il est à 9 ans et demi. C'est beaucoup, quoi. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ces gens qui sont sous pression quand même. D'ailleurs, les trois sélectionneurs des gros pays qui ont été éliminés, le Portugais était là depuis 15 ans, ou l'Allemand était là depuis 15 ans, le Portugais était là depuis 12 ans, et Deschamps 9 ans.
Très bien, donc effectivement, là, je comprends. Là, vous estimez effectivement qu'il a fait son heure, quoi. Il a fait des heures extraordinaires dans le foot français, mais en tout cas, en tant que sélectionneur...
Mais je me méfie avec lui, il va peut-être nous démontrer le... Et je serais très heureux...
Vous seriez heureux qu'il vous démontre le contraire. Hein. Et il a quand même fait revenir Benzema dans l'équipe. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Je pense, là aussi je n'ai pas de preuves, mais moi je pense que ce n'est pas une décision de Deschamps.
Ah bon, pourquoi ?
Je pense que c'est une décision supérieure. Pourquoi ? Parce que d'abord je pense que Deschamps connaît trop bien le football pour faire revenir Benzema à trois semaines de l'Euro. Il l'aurait fait revenir 4 mois avant, 4-5 mois.
Pour le faire travailler, en fait, et oui. il est arrivé à la dernière minute.
D'abord, il a joué avec Mbappé, il n'avait jamais joué de sa vie avec Mbappé, etc. Enfin, et d'autres joueurs, c'est tout. Et deux, depuis l'annonce de la liste, vous reconnaîtrez que tout a été focalisé sur Benzema. Il ne faut pas oublier que tous ces joueurs ont tous un égo démesuré, quand même, ce qui est normal. Et donc, toute la lumière a été sur Benzema, alors que si on l'avait fait revenir 4-5 mois avant, on aurait mis toute la lumière sur lui, et puis on serait arrivé à l'Euro, tout ça, il serait passé.
Donc, selon vous, Didier Deschamps aurait fait les choses différemment, aurait fait revenir Benzema beaucoup plus tôt pour l'intégrer à l'équipe, voilà, le faire travailler, et ne l'aurait pas envoyé
Je pense que là-haut, il y a quelqu'un qui a sifflé la fin de la récréation en disant maintenant, allez hop.
Alors pourtant, personne n'a sifflé la fin de la récré pour Didier Deschamps. Et pourtant, c'est vrai que Zidane, il a quitté le Real de Madrid. Donc on pourrait se dire que eût été logique que Zidane...
On veut lier les destins absolument. Et surtout, moi je crois pas du tout que d'abord que Zidane a quitté le Real en espérant prendre
pour
l'équipe
ça,
de France.
Ouais.
Zidane, il prendra l'équipe de France un jour. En revanche... C'est vrai que c'était aussi une solution, mais encore une fois, ça viendra. Ce qu'il faut voir quand on est trop jeune sélectionneur d'une équipe de France, enfin d'une équipe nationale, c'est qu'est-ce qu'on fait après?
Ah ben justement, j'allais vous le demander. Est-ce qu'il va prendre la place de Noël Le Graët un jour? Est-ce qu'il va devenir le patron de la FFF, la Fédération Française de Football?
Noël Le Graët, évidemment, a déjà dit qu'il aimerait beaucoup que Deschamps lui succède comme président. Alors lui, là, il vient d'avoir 80 ans. Et donc c'est, tout ça, je trouve ça un peu, je vous le cache pas, un peu féodal. On va mettre Zidane comme sélectionneur. Et puis j'aimerais bien que Deschamps, mais je crois que Deschamps pour le moment y est pas. Mais c'est vrai que quand vous avez, il est de 68. Deschamps, il a donc 53 ans. C'est très jeune. Qu'est-ce qu'il va faire? Retourner dans un club?
Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il pourrait redevenir entraîneur dans un club?
Il peut évidemment. Est-ce qu'il en aura envie? Est-ce qu'il aura la
foi,
la capacité à tenir nerveusement. Moi, je me souviens de Mourinho, qui est quand même un grand entraîneur, qui dit toujours, quand on lui a parlé longtemps depuis longtemps du Portugal, et il dit toujours non, ça ce sera plus tard, quand vers la fin de ma carrière. Donc c'est vrai que Deschamps c'est un politique aussi. Donc, on le verrait bien.
En tout cas, on ne le voit pas commentateur sportif.
Non.
Voilà, on l'imagine. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on l'imagine continuer à grimper. Non pas que, effectivement, devenir commentateur soit un destin moins noble, mais on l'imagine avoir des ambitions toujours plus.
Oui.
Non?
C'est parce que j'ai dit que c'était un politique, vous le.
Non, mais je ne sais pas, je vous écoute.
Candidat à la présidence de la République.
Non, on n'en est pas là, mais je vous écoute justement, parce qu'on a l'impression qu'il redresse beaucoup de choses, Didier Deschamps. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation,
merci
Bernard Pascuito. Je rappelle votre biographie, Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre, aux éditions du Rocher. Merci également à Bastien Robin, sans lequel j'aurais abordé cette émission comme un pingouin face à des baguettes. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Jour J.